Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour ou bien rebonjour, un premier cri et c'est parti pour la vie des bébés. Beaucoup de bébés sur les écrans de cinéma à partir de demain, Voir le jour sort en salle. Film de Marion Laine dans une maternité de Marseille, le destin de ces femmes qui aident d'autres femmes à accoucher. Elle joue une auxiliaire puéricultrice dont la vie passée est un secret. La comédienne Sandrine Bonner est l'invitée de Culture Média d'ici, une dizaine de minutes. L'indispensable du jour, Fred Goetti et le petit loup. L'album New York de Lou Reed ressortira en septembre, l'occasion de réécouter quelques splendeurs. Première page, vous découvrez ce matin celle du roman à paraître aux éditions Aquateur de Pierre Adrian qui s'appelle Les bons garçons. Culture Média d'été, la deuxième heure commence maintenant. Où que vous soyez, bonne matinée à vous. Et c'est l'heure évidemment du journal de la culture. Bonjour Damien Caprespine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui.
Au sommaire, une nana hyper cool, un album inespéré, des projets ciné à l'appel, des plans sociaux qui s'annoncent et une idole des jeunes amoureuse.
D'abord, la chanteuse américaine Lizzo, qui a décidé de diversifier ses activités.
Lizzo, c'est peut-être une des nanas les plus cool du moment. Elle rappe divinement bien, elle a gagné 3 Grammy Awards et elle a été élue artiste de l'année par le magazine Time et Entertainment Weekly. Voilà, on vient d'entendre un extrait de son tube, Juice, qui a squatté les premières places des tops du monde entier, mais ça ne semble pas lui suffire, puisque Lizzo vient d'annoncer qu'elle se lançait en parallèle dans des projets de séries télé avec la plateforme Amazon Prime, un accord qui vient tout juste d'être signé. Alors on ne sait pas encore exactement sous quelle forme cette collaboration va se développer, mais Lizzo est une militante féministe noire qui revendique ses rondeurs et qui se décrit comme une alliée de la communauté LGBTQ. Alors donc, elle devrait forcément se lancer dans des programmes très inclusifs. Il y aura donc de la diversité sur les plateformes dans les prochains mois et on attend de voir ce que ça va donner.
LGBTQ, parce que queer maintenant.
Lesbienne, hein,
non pas, voilà. ne pensez pas que nous soyons obsédés. un disque, Damien, qui aura mis presque 30 ans à voir le jour.
Oui, c'est une histoire assez incroyable, celle du groupe It's Immaterial, un duo anglais qui avait connu un joli succès dans les années 80 avec leur titre Driving Away From Home. Écoutez. Voilà, quelques années plus tard, en 1993 très précisément, le duo s'était attaqué à leur troisième album intitulé House for Sale. Des titres ont été composés, quelques maquettes ont été enregistrées et depuis, plus rien, silence radio. Les deux membres du groupe ont pris d'autres chemins en se lançant notamment dans l'enseignement de la musique ou en écrivant pour la publicité ou le théâtre et les prémices de l'album sont restées en jachère. Mais heureusement, les fans de la première heure n'ont rien lâché, ils ont réussi à les convaincre d'aller jusqu'au bout de leur projet et donc 27 ans plus tard, l'album vient tout juste d'être terminé. Il sortira en septembre prochain, mais puisqu'on aime bien prendre un peu d'avance ici à Culture Média, je vous propose d'écouter un extrait en exclusivité. Voici donc Downriver du groupe It's Immaterial.
Bah, ça valait le coup d'attendre, visiblement.
Ouais, c'est une jolie histoire.
Ce paradoxe, maintenant, Damien, les salles de cinéma sont à la peine, mais les réalisateurs, eux, débordent de projets.
Oui, exactement. Les exploitants de salles tirent la langue, les blockbusters débarquent directement sur les plateformes de streaming et les cinéphiles ont encore un peu de mal à retourner en salle. Mais l'espoir, lui, il est toujours là, chez les créateurs. Les annonces se succèdent hein, depuis quelques semaines, comme si de rien n'était. Alors sont annoncés, entre autres, un biopic sur Andy Warhol avec le comédien Jared Leto, une suite au film culte Dirty Dancing, ben oui, on laisse pas bébé dans un coin, et une adaptation de la série K2000, la voiture Kid, David Hasselhoff, tout ça, vous connaissez, Pascal,
oui,
je suppose.
Vaguement, ouais, oui, vaguement.
Alors, dans un autre style, il y a aussi Chiara Mastroianni et Viggo Mortensen qui seront à l'affiche d'un film réalisé par le cinéaste argentin Lisandro Alonso. Et puis, Madonna, elle a posté une vidéo sur son compte Instagram ce week-end où on la voit en pleine séance de travail avec à ses côtés Diablo Cody, la scénariste entre autres du film Juno. Alors, évidemment, tous ces films ne se tourneront pas avant quelques mois et il faudra qu'une solution à la pandémie soit trouvée d'ici là car la situation actuelle du cinéma mondial est vraiment plus qu'inquiétante. Les cinémas français viennent par exemple de publier leurs chiffres de fréquentation en juillet. La baisse est énorme, moins 70% par rapport au même mois l'année dernière.
Ça fait mal. Du côté des studios hollywoodiens, ce n'est pas glorieux non plus. L'avenir s'annonce sombre, notamment chez Warner Bros.
Ah oui, le couperet est tombé hier. Le studio va licencier plus de 650 personnes dans les prochaines semaines. Warner Bros, c'est le studio entre autres des franchises Harry Potter, de Batman ou du Seigneur des Anneaux. Warner Bros vient par ailleurs de remercier trois de ses plus hauts responsables. Et la chaîne de télévision HBO, qui est une filiale du studio, va elle aussi être touchée. 150 employés pourraient être remerciés, selon Variety, le magazine américain. Et ce n'est que le début, puisque Disney et NBC Universal seraient eux aussi sur le point d'annoncer un plan social.
On termine avec la chanteuse Angèle, qui a fait son coming out hier sur Instagram. Mais c'est pas vraiment nouveau aussi.
Oui, mais c'est à travers une photo de vacances. On la voit assise sur un rocher avec un t-shirt sur lequel est simplement écrit « Portrait of a woman who loves women ». Si vous ne parlez pas anglais, « Portrait de femme qui aime les femmes ». Un cliché qui a reçu des milliers de commentaires et de likes pour la féliciter, notamment de la part des chanteuses Pomme, Jeanne Dead ou Cœur de Pirate. Alors on se souvient par ailleurs que Angèle avait sorti un très beau titre sur l'amour homosexuel, ça s'appelait « Ta reine ». Alors on va terminer ce journal avec un extrait de cette chanson et vive l'amour.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
C'est un été compliqué pour les salles de cinéma. Du coup, on est presque étonné quand arrive le mercredi et qu'un nouveau film voit le jour en salle. Eh bien si, sur l'affiche du film de Marion Lenne, demain sur les écrans, on la voit, elle, Sandrine Bonner, auxiliaire dans une maternité, tenir un beau bébé dans ses bras. Voir le jour, une plongée dans le quotidien d'une mater, on dit mater dans le film, d'une maternité de Marseille, sous-effectif, horaire à rallonge, on frôle le drame. Et parfois, il arrive. Bonjour Sandrine Bonner.
Bonjour.
Bah, bouffez un coup si vous voulez. Hein, vous,
voilà. C'est ce que je suis en train de faire.
Ouais, allez-y. Alors, je vais faire une longue question du coup. Métaphore, le film naît demain en salle et c'est presque un miracle, comme je le disais, tellement de sorties sont reportées. Vous y voyez un symbole de la sortie de ce film malgré tout?
Un symbole, non. Malheureusement, non. J'y vois... Qu'est-ce que j'y vois? En tout cas, ce que je vois, c'est plutôt... je suis affligée de voir qu'on autorise un siège sur deux dans les salles de cinéma, alors que je suis revenue en train pour venir vous parler. et que dans les trains, eh bien, nous sommes tous agglutinés.
Oui, côte à côte, il n'y a pas de siège vide.
À côté des autres, il n'y a pas de distance... Et donc,
vous ne comprenez pas ça?
Non, je comprends une chose très claire, c'est que il faut. C'est une histoire d'argent.
Bah oui, mais enfin, la culture, c'est aussi une industrie qui rapporte. Pourquoi
Parce que, je sais pas, c'est une industrie qui rapporte, mais c'est pas la priorité. Et je peux aussi le comprendre, bien sûr, en ce moment. Mais c'est une industrie qui rapporte, mais sur laquelle on met de moins en moins de moyens, mine de rien.
Est-ce qu'il n'y a pas absurdité en ce moment à chaque coin de rue? Regardez le plan, pour ne parler que de Paris, le plan de Paris, on doit porter le masque et puis on arrive au bout de la rue et on doit l'enlever. Enfin, on peut l'enlever, il n'y a pas d'obligation non plus. Tout est absurde en ce moment, non, vous ne trouvez pas?
Ah ben carrément.
Et vous, ça vous met dans quel état alors?
Dans toutes sortes d'états, comme nous tous, j'imagine. Ça pourrait me faire pleurer, ça pourrait me faire rire, ça peut me mettre en colère. De toute façon, c'est un peu compliqué de résumer en 30 secondes. Et puis en plus, je suis finalement pas là pour ça, quoi.
C'est vrai, vous êtes là pour un film dont on parle tout de suite. Voir le jour, un film certes de fiction, mais qui tombe à pic pour illustrer ce monde hospitalier qui manque cruellement de moyens. On voit bien ça dans ce film de Marion Lenne. Les horaires sont extensibles, les repas sont pris sur le pouce, une box de pâtes au micro-ondes. Le personnel malade n'est pas remplacé, il y a ces enfants qui demandent à naître et c'est un sacerdoce pour ces femmes qui donnent tout. Voir le jour, au casting impeccable à vos côtés, Horatica, Brigitte Rouen, Sarah Stern, ou Kenza Forta, qu'on avait vu dans Scheherazade, Voir le jour par Damien Caprespine.
C'est l'histoire d'une femme qui se réinvente. C'est l'histoire d'une maternité au bord de l'implosion. C'est l'histoire d'une équipe de battantes, des sages-femmes et auxiliaires de puériculture qui se livrent corps et âme à leur métier.
On est toujours en sous-effectif et ça, vous vous en foutez.
Vous n'êtes pas syndiqué, que je sache. C'est toujours resté à l'écart, alors continuez comme ça, c'est mieux.
Je crois pas, non.
D'en voir le jour, l'hôpital est en crise, le système s'effrite, les soignants travaillent en flux tendu. Chaque geste, chaque minute consacrée aux patients se transforme en acte miraculeux. Les conditions de travail sont défaillantes. Ici, les soignants oscillent sans cesse entre rébellion et résignation. Et le film devient étrangement politique lorsqu'il met en exergue toutes les revendications soulevées par le fameux Ségur de la santé.
C'est pas parce qu'on fait ça par vocation qu'on doit être payé minablement. Donc ce soir, il faut décréter la grève.
Au cœur de cet établissement en surchauffe, il y a votre personnage, Sandrine Bonnaire, une femme qui cache son passé, qui voit grandir sa fille et qui finit par accepter de révéler son secret. Un personnage complexe et rock'n'roll qui sort des sentiers battus et qui refuse d'envisager le changement de vie comme un renoncement.
Ah, c'est un beau bébé.
Je pensais pas que c'était comme ça un accouchement.
Impressionnant, hein ?
Ouais. Et vous, c'était comment votre accouchement ?
Je sais plus.
Vous et vos collègues, vous m'avez emporté dans votre tourbillon en regardant ce film. J'étais à vos côtés, je fulminais devant les injustices, je tremblais pour qu'éclate enfin la vérité. Voir le jour, c'est un plaidoyer pour un hôpital plus serein, mais c'est aussi le portrait de différentes femmes, incarnées par des actrices époustouflantes, toutes époustouflantes. Des femmes en lutte, des femmes qui avancent, des femmes qui refusent la fatalité et qui croient qu'on peut encore garder un peu d'espoir dans l'humanité.
Bruitage échographique pour terminer le papier de Damien Cabrespine. Sandrine Bonnaire, c'est vrai qu'il tombe bien ce film. Alors c'est d'abord c'est un film de fiction, mais enfin ce qu'il raconte, son côté un peu documentaire, il tombe extraordinairement bien. Vous l'avez tourné quand ?
On l'a tourné l'année dernière, en mars dernier. Oui, c'est un film qui tombe bien, mais j'ai presque envie de dire que ça tombe toujours mal, dans le sens où je me souviens qu'en 96, j'avais déjà fait une série pour France 2 qui s'appelait Une femme en blanc, où le sujet était un peu le même, c'est-à-dire que c'était une femme chirurgien qui se battait pour faire en sorte que les hôpitaux de proximité restent en service. Et c'est vrai que et en même temps, en France, on n'est pas les plus mal lotis, hein, parce que on a quand même la sécurité sociale, chaque personne peut se faire soigner plus ou moins gratuitement, mais effectivement, depuis fort longtemps.
Oui, c'est vrai que c'est idiot de dire que ça tombe bien parce que la situation n'est pas nouvelle et ne date pas d'hier.
Voilà.
Simplement, on a cru que suite à cette crise du Covid, on est toujours dedans, mais enfin que ça allait changer le sort en général des hôpitaux et peut-être même des maternités. Qu'est-ce que vous en dites, vous, aujourd'hui ?
En tout cas, j'espère que... Enfin, j'espère, et puis en même temps... Une chose est sûre, c'est que je pense qu'il ne faut surtout pas, il faut laisser les moyens. S'il y a une chose sur laquelle on est tous égaux, c'est bien ça, c'est la santé. Et là, il faut surtout pas rigoler avec ça. Il faut, dans le sens où il faut pas, il faut que l'État puisse continuer à mettre en œuvre, en tout cas à mettre en œuvre un peu plus de moyens sur dans ce domaine-là, parce que on a bien vu ce que ça donnait, quoi.
On va marquer une petite pause, Sandrine Bonnaire, et tenter de combler vos points de suspension.
Merci.
On va vous aider à remplir les petits silences, mais le silence, c'est bien aussi. À tout de suite pour le film Voir le jour.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et nous sommes avec Sandrine Bonnaire. Tout va bien ?
Très bien.
Tout va dire, tout va bien. Il fait chaud, vous avez un film demain dans les salles, mais... Zéro tension, tranquille. Sandrine Bonnaire, dans Voir le jour, le film de Marion Lenne, vous jouez Jeanne. C'est un rôle particulier parce que vous apparaissez à la fois solaire et torturée. Vous l'avez senti comme ça aussi ? Et ce personnage vous a accroché avec son passé enfoui ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, dans le sens où, de toute façon, jouer un personnage, c'est forcément raconter un parcours. Et surtout quand on a l'âge que j'ai, qui est 53 ans aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui...
Et pas aujourd'hui même, enfin.
Pas aujourd'hui même.
C'est pas
voilà,
votre anniversaire, sinon je vous le souhaite. Hein.
Non, c'était le 31 mai. Mais bah oui, c'est intéressant de et c'est d'ailleurs aussi une partie du sujet du film. C'est elle s'appelle Jeanne, mais elle s'appelait aussi Norma. C'est-à-dire que c'est une femme qui ne veut surtout pas parler de son passé. Non pas qu'elle en ait honte, mais en tout cas elle ne l'assume pas. Et effectivement, c'est entre ce qu'elle a vécu avant et ce qu'elle est aujourd'hui.
Il y a une déchirure à un moment donné. Hein. On sent bien que...
Oui, il y a une déchirure. Et puis, il y a aussi le fait de revisiter le passé. C'est ce qui est, je trouve, formidable dans le film. C'est, on la voit dans... Ce ne sont pas des flashbacks, mais c'est une forme de projection de pensée dans ce qu'elle a été avant, avec son visage d'aujourd'hui.
Parce que c'est aussi pour ça que ça s'appelle voir le jour, c'est-à-dire voir le jour au sens premier, quand les enfants naissent, et aussi voir le jour quand on devient mère, probablement, et puis voir le jour quand on revoit son passé. C'est tout ça, voir le jour. C'est ça qui vous
voir le jour, c'est s'intéresser à ce qu'on est, à ce qu'on a été, et à ce qu'on va devenir aussi. Mmh.
Ça, c'est un sentiment que vous avez ressenti, que vous connaissez, vous, dans la vie?
Moi, j'adore revisiter le passé.
Ah, c'est vrai ?
J'adore ça. J'adore ça parce que ça permet de mieux vivre le présent.
C'est jamais douloureux, du coup ? Il y a quelque chose à exorciser ou comment ça se passe ?
Non, c'est pas... je pense que c'est comme chacun d'entre nous. C'est, on a tous un passé et puis on y pense forcément. On est tous habités par notre passé, on est tous nourris et on se construit de notre passé pour... ce qu'on est aujourd'hui, c'est ce qu'on a été. À commencer par justement l'enfance, la naissance, l'éducation, tout ce qui nous a conduit à être ce qu'on est là maintenant.
Ce qu'il y a d'assez fort dans ce film, je trouve, c'est cette solidarité entre toutes ces femmes qui sont en lutte, hein, d'ailleurs, dans cette maternité de Marseille, avec ces conditions de travail très compliquées. On n'imagine pas qu'il y ait des notions de rentabilité, y compris dans les maternités, c'est-à-dire que ça revient à du productivisme. On va écouter un extrait de ce film.
Chambre 4, Madame Frazé, césarienne, à C5, cicatrice propre. Les agrafes ont été retirées ce matin, mais elle n'a pas l'air mieux. Elle refuse de se laver et de s'occuper de son bébé.
On lui a livré un bébé en bonne santé, qu'est-ce qu'elle veut de plus ?
C'est toujours un peu violent, une césarienne en urgence, non ?
Comment va le bébé de cette pauvre maman ?
Malo va bien. J'ai 5, il dort beaucoup, il prend bien ses biberons.
C'est formidable. Donc tu lui donnes le numéro de Valérie, elle l'appelle à son retour de congé, et puis tu signes sa sortie.
Le problème, c'est qu'elle refuse de se lever. Donc du coup, rentrer chez elle sans avoir marché depuis 5 jours avec ses deux gamins, physiquement, c'est un peu compliqué, quoi.
Non, je sais pas, on va faire un truc simple. Cet après-midi, vous la levez, vous la collez sous la douche. Et tu signes sa sortie demain, c'est bien demain.
Et comment on la force à se lever, docteur ?
Alors, les filles, il faut juste comprendre une chose. C'est qu'à partir de l'année prochaine, on nous impose 4 jours pour les césars et 2 pour les accoucher. Donc moi, je veux bien être gentille. À un moment donné, leurs baby blues, elles vont gérer chez elles, pas ici.
Eh ouais, ça se passe comme ça. Vous le saviez, vous ? Y compris dans les maternités ?
Je le savais pas à ce point-là, mais oui, oui. Bien sûr.
Et c'est dingue ! Ça vous révolte pas ?
Bah si, justement. Et le fait d'avoir fait ce film, c'est une manière de m'exprimer dans ce domaine-là. C'est de pas forcément de dénoncer, mais de constater. Ce film n'est pas
bien sûr, c'est pas un film. Brûlot, c'est pas un brûlot.
C'est pas comment dire. C'est un film à la fois politique, ça, oui. Mais c'est aussi un film très très beau sur la naissance et la renaissance. C'est un film qui est aussi plein d'espoir, quoi. Sur le fait de, eh bien, il ne faut pas se taire. Il faut avancer. Et pour mon personnage, renaître.
Exactement. On continue de parler avec Sandrine Bonner qui est ce matin sur Europe 1 et tout va bien.
Oui, tout va bien.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Votre personnage a un passé secret, donc on ne va pas révéler ici, sauf si vous tenez absolument, Sandrine Bonnet. Mais enfin, quand même, sans trahir de secret, on peut dire qu'on chante beaucoup dans le film.
Hein. Oui.
On chante en Assemblée Générale, on chante pendant les karaokés, et il y a une musique voilà, qui revient dans ce film et qui donne ça. Voilà, vous la connaissez par cœur ou pas, cette chanson de Nicoletta ?
Alors, je connais pas la chanson par cœur, mais je peux dire que j'ai été bercée par Nicoletta une grande partie de mon enfance, parce que mon père était amoureux de Nicoletta. Et donc, forcément, j'aimais Nicoletta depuis mon plus jeune âge. Il s'est trouvé que j'ai rencontré Nicoletta il y a quelques années. On avait inauguré un centre pour autistes. Et puis, j'ai retrouvé Nicoletta il y a un an, juste après le film. Et grâce à Hervé Villard, que j'ai rencontré via un ami. Et voilà. Et Nicoletta, je suis absolument fan, non seulement de la femme, que je trouve extraordinaire, et puis, voilà, tout son parcours, ça... Justement, c'est aussi une femme très, très engagée, très battante, très, très rock.
Ah ouais.
Ah ouais, elle est, c'est une grande dame.
Mm-hmm. Puisqu'on fait part de souvenirs intimes, ça ne va intéresser personne, mais permettez-moi de vous dire que ma grand-mère adorait Nicoletta, voilà.
Ah ben,
je
voilà.
L'ai dit, vous disiez que vous aviez inauguré une maison ensemble pour des enfants ou des adultes autistes. Du coup, je pensais à votre sœur et je voulais prendre de ses nouvelles. Si je me permets de le faire, c'est que vous avez fait un documentaire, évidemment, consacré à Sabine. Comment va-t-elle ?
Elle va très bien dans sa pensée, dans son psychique. En revanche, je trouve qu'elle va pas bien physiquement. J'étais avec elle, je l'ai amenée en vacances il y a 15 jours. Et je la trouvais très fatiguée physiquement. Et je vous avoue que ça m'inquiète un peu.
Ouais, ça a dû être compliqué le confinement pour elle, non ?
Ben non, non, parce que malheureusement ils sont confinés.
Oui, mais enfin, il y avait des choses quand même, non ? Peut-être qu'elle ressentait des choses.
Non, elle a très bien compris ce qu'était le virus, le port du masque. Elle l'accepte. Bon, Sabine a la capacité, contrairement à d'autres autistes, Sabine s'exprime, parle et échange beaucoup avec les autres. Donc, on peut lui expliquer les choses. Elle les comprend et elle peut aussi les... Elle peut s'exprimer. Mmh.
J'ai regardé un petit peu votre filmographie pour préparer cette émission et je me suis rendu compte que ça faisait 37 ans, Sandrine Bonnet, que vous pratiquiez ce métier de comédienne. Alors vous n'êtes pas que comédienne maintenant, mais ça ne vous paraît pas dingue, vous ?
Non, pourquoi ?
Je sais pas, c'est long.
Ça fait combien de temps que vous faites ce métier, vous ?
Ouais, longtemps, ouais.
Ah ben voilà.
Mais moi, ça me paraît dingue, contrairement à vous.
Ah ouais ?
Non, vous les voyez passer, les années ?
Bien sûr, je les vois passer.
Ah ouais ?
Ah oui. Et c'est très intéressant de voir le temps qui passe. Et pour le coup, je les vois vraiment passer, puisque mon image est inscrite dans tous les âges.
Exactement.
Je me suis vue petite. Enfin, petite, ouais. À l'âge de 15 ans, je me suis vue... grandir, je me suis vue mûrir, maintenant je me vois vieillir, et puis encore, dans quelques années, je me verrai vraiment vieillir.
Oui, il faut le souhaiter, espérant que vous trouviez des beaux rôles, parce que c'est une difficulté, on le sait, hein. Plus on avance dans l'âge, surtout pour une femme, plus c'est compliqué d'avoir des beaux rôles, non ? C'est vrai ça, ou c'est un cliché ?
Je ne sais pas, Je pense que ça dépend comment on a commencé sa carrière et surtout ce qu'on veut continuer à être. Mm-hmm. C'est-à-dire que si on joue sur le fait qu'on reste belle et jeune, là, c'est... Voilà, c'est, si on a suscité le fantasme ou si on a tout le temps joué là-dessus, c'est plus compliqué de vieillir, c'est sûr. En ce qui me concerne, j'ai pas... non seulement j'ai pas eu de rôle comme ça, et puis je l'aurais pas forcément souhaité. On a de très belles actrices qui... voilà, si on pense à Catherine Deneuve, à Isabelle Huppert, à Fanny Ardant, enfin toutes ces femmes ont encore de très beaux rôles.
C'est vrai. C'est drôle.
Et d'autres.
Ouais, et d'autres. C'est drôle parce que cet été, il y a TMC qui a rediffusé un nanar, Les Soudous en vacances. Ouais. Film de Claude Zidi avec Guy Marchand et Daniel Auteuil, et vous faites une apparition là-dedans.
Tout à fait.
Vous vous souvenez vous...
Ah, je m'en souviens très bien.
Mais vous vous souvenez tout, vous?
Bah oui, je suis pas encore Alzheimer, hein, dites
bah
donc.
Bah non, enfin, vous savez, il y a des, c'est le propre de la mémoire,
surtout,
que de faire des tris, faire des choix.
Se souvenir de ça, c'était quand même mes premiers instants au cinéma, si je puis dire.
Vous avez quand même un parcours royal. Hein. Bon, évidemment, vous avez tourné avec les plus grands, Piala, bien sûr, Agnès Varda, Jacques Doyon, André Téchiné, Claude Sautet, j'en oublie plein parce qu'on n'a pas le temps.
Oui, puis c'est souvent ceux qu'on cite, mais il y en a plein d'autres.
Oui, il y en a plein d'autres, mais quand même, c'est un parcours royal et peut-être qu'on ne le dit pas assez, que vous avez ce parcours-là. Vous ne trouvez pas, vous? Non, vous ne voulez pas me le dire, bien sûr.
Bah, moi, je ne me pose pas la question, franchement.
Mais ça s'est passé incroyablement bien. Vous vous le dites quand même, que vous, comme comédienne, vous vous êtes exprimée vraiment sur beaucoup, beaucoup de terrain et avec des grands metteurs en scène.
Absolument. Je pense que j'ai été, oui, gâtée, joliment accompagnée. Et encore aujourd'hui, c'est joli de continuer à être là, mm-hmm, à exister.
Quels sont vos projets de réalisatrice ou productrice d'ailleurs, parce que vous faites les deux. C'est difficile de monter des choses en ce moment, oui.
Alors pour l'instant, on est en développement d'un, je dis on, parce que c'est une, notre société de production s'appelle À nos amours, que j'ai créée avec ma fille, Jeanne, ma grande, parce que j'ai deux filles. Et nous développons une série de documentaires. Donc ça va être 10 courts-métrages, parce que pour l'instant, nous produisons du court-métrage. Ouais. Et voilà, donc on est en développement de ces 10 films de 10 à 12 minutes.
Il y a une thématique commune?
Oui, la thématique, c'est le monde de... Ce sont 10 jeunes femmes, enfin, jeunes filles. En fait, le thème, c'est le passage de l'enfance, enfin, de la fin de l'adolescence au pas de la jeune femme dans tout ce que ça comporte.
Mmh. Yep. Probablement beaucoup à dire et à montrer. Restez encore un petit peu, s'il vous plaît, Sandrine Bonner. On va arriver aux indispensables. Fred Goetti arrive, il va nous parler d'un loup, d'un petit loup qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Louride. Hein, j'espère que vous aimez aussi. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et place aux indispensables de Culture Média. Bonjour Fred Goetti.
Bonjour Pascal, bonjour Sandrine Bonner, bonjour à tous.
Alors attention Sandrine Bonner, vous écoute et elle est rock, hein, donc
je vais sortir tout de suite.
En 1989, le légendaire rocker Lou Reed sortait l'un des plus beaux disques de sa carrière. Il portait le nom de la ville où il était né 47 ans plus tôt, à l'époque, New York évidemment. New York City, mais l'album s'appelait New York. Ce disque ressortira le 25 septembre aux éditions, en édition de luxe. Et vous ne vouliez pas attendre une seule seconde de plus pour nous en parler, Fred.
Merci Pascal. Mais avant de parler de New York, l'album, je vous invite à monter dans ma DeLorean volante destination New York, la ville, en novembre 72. Retour vers le futur de Lou Reed, où comment s'imaginer des lendemains qui chantent après avoir changé l'histoire du rock accessoirement au sein du Velvet Underground. Imaginez, nous sommes dans un yellow cab, un taxi jaune, et la radio est allumée.
Lou Reed, the original. He's been one since the birth of the New York Underground, and now he's back with a new album.
Lou Reed, l'original, le New York Underground, and now he's back with a new album. Ce nouvel album, c'était pas encore New York, non, c'était bien sûr Transformer, le classique des classiques, supervisé par l'un des plus grands admirateurs de Lou Reed, David Bowie. Et miracle, miracle, il y avait un tube dans Transformer, Walk on the Wild Side, une chanson douce, aux paroles très crues.
Ouais,
qui...
non mais d'accord, quoi, Fred. Non, Walk on the Wild Side, ça va bien deux secondes, hein. C'est magnifique, mais moi je préfère l'autre classique de Transformer, Perfect Day.
Ah oui. Ah oui, oui, bon, bah alors ok.
Je peux.
Non, mais si, c'est autorisé. Alors changeons de trottoir. Hein, marchons du compte ensoleillé. Et souvenons-nous que quelques secondes de ce jour parfait, ce perfect day selon Lou Reed. It's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging. Et puis allez.
C'est tout.
Ah bah il faut enchaîner, je vais dépasser, je vais me faire gronder. Okay. Ah puis allez, dernier coup d'œil dans le rétro, Lady Day, en hommage à la grande chanteuse de jazz Billie Holiday, extraite du chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, cette fois Berlin, massacré par la critique en 73, vénéré à juste titre en 2020. Mais trêve de nostalgie. Allez, entre Berlin, l'album culte, et New York, le classique instantané, 16 ans passèrent avec des hauts, bien plus qu'on ne voudrait le croire, et des bas, bien moins qu'on ne le pense. Mais au crépuscule de ces années 80, pas toujours facile à digérer pour les légendes vivantes ou survivantes des années 60 et 70, Lou Reed est à nouveau touché par la grâce, réincarné, bluesman moderne, racontant en long et en large tout ce qui va travers dans la ville qui ne dort jamais, sa ville, New York. Alors il écrit des textes, qu'on peut lire comme un recueil de nouvelles d'ailleurs, puis il s'enferme en studio pour enregistrer 14 chansons d'une seule traite avec son quartet rock qui pourrait presque être de jazz. Tiens, cette musique qu'il fascine aussi beaucoup. C'est le début d'une grande aventure. The beginning of a great adventure. Oui, chère Sandrine Bonner. Oui, Pascal. Vous pouvez claquer des doigts. Baby, it's the beginning of a great adventure. Oh yeah. Baby, beginning of a great adventure. Take a look. S'il savait, s'il revenait d'outre-temps de savoir qu'il a été accompagné par Sandrine Bonner et Pascal Clark.
Bah, peut-être qu'il est là dans le studio.
Il deviendrait peut-être sympa d'un seul
coup.
On ne sait pas. Ouais. Alors New York, évidemment, c'est un nouveau chef-d'œuvre à l'époque qui remet Lou Reed sur les bons rails. Le grand méchant loup qui terrorisait les journalistes dans les années 70 s'est réinventé poète urbain. Alors, en attendant la sortie de l'édition Deluxe de cet album qui comprendra 3 CD, 1 DVD, 2 LP de 33 tours, audiophile s'il vous plaît, et un livret supervisé par sa veuve, la merveilleuse Laurie Anderson, bah, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir sur les plateformes de streaming ce disque magnifique. Ah au fait, le morceau phare de New York, la pépite rock, bah, c'était Dirty Boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard.
Lou Reed, raconté par Fred Goati. Merci Fred.
Merci Pascal.
Quel est votre Lou Reed préféré?
Merci Fred.
Merci Sandrine Bonner.
Sandrine Bonner, quel est votre Lou Reed, celui que vous aimez alors? Il y en a plein là.
Ah oh bah il y en a plein. Ouais. Attends.
Chacun
son. Attendez, c'est... Enfin, comment choisir?
Ouais, non, c'est hein? Vrai. Et puis pourquoi choisir?
Et puis pourquoi choisir, exactement?
Quand même, Perfect Day. On est d'accord?
Bah oui, aussi.
Description d'un jour parfait. Aha. Description d'un jour parfait pour vous. Oui, je sais. J'ai bien conscience.
Description d'un jour parfait.
Quels ingrédients?
Quelle serait la description d'un jour parfait? En tout cas, c'est pas aujourd'hui, hein, parce que je peux
oh,
vous
bah
dire que
donc.
Je me suis levée très tôt.
Ah bah oui.
J'ai enchaîné plusieurs interviews. J'ai commencé à 7h ce matin.
Et alors, c'est un calvaire?
Ah ben, je suis absolument pas matinale.
Bah moi non plus.
Donc voilà. It's not a perfect day for me.
D'accord.
Mais je suis ravie d'être avec vous.
Ah, quand même. Oh, bah, pff, on a eu chaud là. Quand même, vos projets, Sandrine Bonner, j'ai lu 2-3 bricoles intéressantes. Déjà, vous produisez en lecture musicale en Dordogne à la fin du mois.
Absolument, oui.
Vrai,
ouais.
C'est quoi cette histoire?
Alors, cette histoire, c'est... C'est l'histoire d'un poète qui s'appelle Joël Bastard. C'est un texte qui s'appelle La clameur des Lucioles. Et donc c'est une lecture musicale accompagnée par Eric Truffaz. Voilà, donc on est tous les deux à accompagner ce merveilleux texte de Joël Bastard.
Vous l'avez déjà dit et lui joué
ouais,
ensemble.
Ouais. Ouais. On l'a déjà fait exister en musique et en voix. Et voilà, et on poursuit cette très belle aventure de ce magnifique texte.
Alors, autre chose, un tournage, vous tournez un film à la fin du mois, vrai, une adaptation du roman de la grande Annie Ernaux.
Absolument.
L'événement.
Ouais, l'événement, tout à fait. Donc, c'est le tournage a déjà commencé. Moi, je vais tourner début septembre. C'est une participation, mais un rôle clé, puisque je vais jouer la mère.
Du personnage principal
et voilà, et ce personnage a, comme on le sait dans la vie de cette grande écrivaine, voilà, ça a énormément compté. Et puis l'événement retrace quand même une partie de sa vie qui n'a pas été simple, puisque voilà, ça parle effectivement d'avortement, de non-avortement, plus exactement, puisque à l'époque, les femmes ne pouvaient pas avorter.
Sinon que dans des conditions illégales, voilà. Et qui viraient parfois à la boucherie, il faut bien le dire.
C'est ça.
Que reste-t-il de vos rôles?
De mes amours?
Si vous voulez, comme vous voulez. Vous me parlez de ça. Non, sérieusement, alors ça doit dépendre des rôles, mais... On disait tout à l'heure que vous aviez eu des très beaux rôles avec des grands réalisateurs. Il reste toujours un petit quelque chose au fond de vous, de tous ces personnages que vous avez joués, Sandrine Bonner?
Oui, bien sûr, il en reste plein. Et puis il y en a d'autres qu'on oublie pour diverses raisons. Parce que ce n'est pas forcément une rencontre avec le metteur en scène ou même avec le rôle. Ou parce qu'on n'a pas été forcément inspiré, même si on essaye de... tout faire comme on aimerait que ce soit. Oui, bien sûr qu'il y a des rôles qui restent en moi, bien sûr. Mais en même temps, je garde une distance dans le sens où je ne fais jamais de transfert ou de projection, dans le sens où je considère ce métier comme... j'ai envie de dire que je suis à la fois comme un peintre, c'est-à-dire que je vais m'approcher de la toile. Et puis, en même temps, je vais m'en éloigner totalement pour y voir toutes les perspectives, tous les angles. Et puis, je suis aussi comme un artisan, c'est-à-dire, une fois que la journée est terminée, je ferme la boutique.
D'ailleurs, c'est le moment de fermer boutique avec vous. Je ne vous cache pas.
C'est parfait.
Vous pouvez aller vous recoucher, sauf s'il y a d'autres promos. Merci beaucoup d'être venue, Sandrine Bonner.
Merci à vous.
Voir le jour, le film de Marion Laine sera demain dans les salles. Avant, première page, voici un petit coup de folie, un petit coup de madness sur Europe 1. Là, vous pensez qu'il va dire One Step Beyond? Eh bien, pas du tout. C'est pas celui-là. Voici première page. En attendant la rentrée littéraire, découvrez en avant-première le début des romans apparaître. Ce matin, la première page du livre Les bons garçons de Pierre Adrien, qui sortira dans moins de 15 jours aux éditions Équateur. Rome, dimanche 12 mai 1974. C'était un jour bleu, un dimanche, à tout foutre en l'air. Les filles riaient, serrées l'une contre l'autre sur la mobilette. Raffaella conduisait à fond les manettes, avec le sentiment que rien de grave ne pouvait arriver. Et Maria Grazia s'accrochait derrière elle comme elle pouvait, sans savoir où abriter ses jambes. Ce dimanche-là, tout semblait permis. On se croyait déjà en été sous ce ciel bleu. Et le gémissement des goélands donnait des envies précoces de bain de mer, de longues journées à Ostie. À ne rien faire, être là simplement, retourner le sable avec ses pieds, s'aveugler de soleil. Regarder les garçons piailler derrière leurs ballons et rire beaucoup. Raffaella posa pied à terre devant la fontaine aux tortues Piazza Mattei. Le silence de la placette, déserte, était à peine brisé. Oh, trop dommage! Ça s'est fini au milieu d'une phrase. Bah, c'est ça le principe de première page. Celle des bons garçons de Pierre Adrian à paraître aux éditions Équateur. Culture Média, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain dès 9h sur Europe 1. Nous serons notamment en compagnie de la romancière Catherine Pancol. À suivre sur Europe 1, Anne Roumanoff, le best-of. Bonne journée. Je ne vous embrasse pas. À demain.